Bonsoir, France. Judiciaire contre la guerre dans l'Est de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont échangé mardi 25 février à Kinshasa sur la crise sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. À cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation des rebelles du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Il demande à ceux qui détiennent des preuves sur des crimes de génocide, de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, de les envoyer sur le site de la CPI. Pendant ce temps, la RDC a porté plainte contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples à Arusha, en Tanzanie. Dans ce procès, Kinshasa veut faire reconnaître et obtenir des sanctions contre le régime de Kigali à la suite des atrocités commises dans l'est de la RDC. Quelle lecture faire de la démarche de la RDC sur le front judiciaire pour obtenir la condamnation du Rwanda? Nous en parlons ce soir avec Aimé Kilolo Moussamba. Il est avocat, ancien conseil principal de la défense auprès de la Cour pénale internationale. Il est également avocat au barreau de Bruxelles, en Belgique et du Haut-Katanga, en RDC. Il a été rapporteur général des travaux des États généraux de la justice. Maître Aimé Kilolo, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir aujourd'hui.
Achille Kapanga, il est aussi avocat, analyste indépendant, expert dans les domaines des sécurités, de la sécurité. Achille Kapanga, bonsoir.
Merci beaucoup, madame. Bonsoir.
Il est également avec nous dans le débat de ce soir, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Kéline Couté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi, ainsi que mes co-débatteurs qui sont dans les studios. Merci.
À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur DirecTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
En mission de 48 heures en RDC, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a pris langue avec de nombreuses autorités congolaises, dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Avec ses interlocuteurs, le juge de cette instance judiciaire a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation des rebelles du M23, soutenues par l'armée rwandaise. Karim Khan a souligné que les populations congolaises sont aussi précieuses que celles de l'Ukraine, d'Israël, de la Palestine ou tout autre endroit du monde. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala.
Durant sa visite, Karim Khan a échangé avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, le vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Samuel Mbemba, la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, ainsi que des victimes et des membres de la société civile. À différents niveaux, ces hauts magistrats a exprimé son inquiétude des récents développements au Congo, faisant ainsi allusion à la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Karim Khan a fait passer un message clair et fort, je cite, « Aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque en blanc. Ils doivent respecter les droits internationaux humanitaires. » Fin de citation. Pour lui, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Pendant ce temps, la RDC traîne les Rwandais en justice devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. Le vice-président de cette cour a indiqué qu'ils vont se prononcer dans quelques jours sur les exceptions soulevées par les régimes de Kigali, alors que le vice-ministre de la justice, Samuel Mbemba, assure que Kinshasa dispose des preuves tangibles qui chargent les Rwandais devant cette juridiction africaine.
Merci Blaise Ndungala pour ce reportage. Maître Aimé Kilolo Moussamba, je rappelle que vous êtes avocat, ancien conseiller principal de la défense auprès de la Cour pénale internationale. Vous êtes également avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et du Haut-Katanga en RDC. Vous avez été rapporteur général des travaux des états généraux de la justice, le procureur de la Cour pénale internationale et en RDC pour une visite de 48 heures, il est venu par rapport à la situation, discuter avec les autorités congolaises par rapport à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. À cette occasion, il a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Quelles pourraient être les implications de l'appel à témoins lancé par le procureur de la CPI Karim Khan, Maître Aimé Kilolo, cette émission est aussi pédagogique pour essayer de faire comprendre aux nombreux auditeurs qui nous suivent sur Radio Capi comment se fait la procédure au niveau d'une plainte à la Cour pénale internationale ou encore au bureau, comment dire, à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Vous avez la parole, Maître Kilolo.
Je voudrais d'emblée saluer l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice, qui effectivement s'est engagé dans le sens de la mobilisation de la justice pénale internationale aux fins de répondre aux attentes des millions des victimes des crimes abominables qui se commettent à l'est de notre pays depuis bientôt 30 ans. Alors, il faut dire que lorsque le bureau du procureur lance un appel à témoins, il faut le comprendre comme un message qui veut simplement dire que la compétence de la Cour pénale internationale est complémentaire à celle des États. Ce qui veut dire concrètement qu'il est d'abord de la responsabilité de chaque État sur le territoire duquel se déroulent des crimes internationaux d'initier des enquêtes, des poursuites, organiser les procès, obtenir les condamnations et s'assurer de l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées. Ce n'est que à titre exceptionnel ou plutôt complémentaire, lorsque les circonstances ne permettent pas efficacement à l'appareil judiciaire national de mener à bien toutes les poursuites, que effectivement la Cour pénale internationale intervient. Dans le cas de notre pays, effectivement, nous avons de nombreux rapports d'experts des Nations Unies, des différents États à travers le monde, d'organisations ONG de droits de l'homme, qui ont mis en évidence l'incursion des forces armées rwandaises sur le territoire national, en appui, bien entendu, au mouvement rebelle M23. Ce qui implique, en termes de responsabilité pénale, la mise en cause certaine de celui qui est le commandant suprême de ces forces armées, le président Paul Kagame, ça implique aussi celle de toute la chaîne de commandement, c'est-à-dire le chef d'état-major, général Rwanda, le ministre de la Défense, et certains parlent même du ministre en charge de la coopération régionale, M. James Kabarebe, qui serait cité, bien entendu, dans ce réseau mafieux international de trafic illicite des minerais stratégiques qui se trouve à l'est et qui alimente la guerre. Et quand on parle de la guerre ici, même si les chiffres demeurent controversés, ce qui est certain, c'est que le drame humanitaire que nous subissons à l'est de la RDC est le plus grave que le monde n'ait jamais connu après celle ou celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il s'agit véritablement d'une situation qui doit absolument attirer l'attention de toute la communauté internationale. Et il est vrai que le gouvernement du pays, mais l'ensemble des observateurs et des experts se sont émus et inquiétés de ce silence, de cette inertie de la CPI. Nous avons connu un premier déferlement ou une plainte du gouvernement congolais en 2004, suivi d'un autre en 2022. Mais jusqu'à ces jours, qui ont été poursuivis? On parle de Thomas Lubanga, on parle de Germain Katanga, ainsi de suite. Mais en réalité, la CPI, c'est contrairement à ses principes, qui consiste à dire qu'il faut poursuivre les responsables le plus important, parce que la CPI ne pourra pas assigner évidemment un millier de personnes ou de docteurs matériels devant sa juridiction. On constate que la CPI s'était plutôt intéressée à des acteurs de seconde zone, laissant ainsi se poursuivre évidemment ce phénomène, ce déferlement et cette prolifération des groupes armés, parce que ces groupes armés sont, d'après ce que l'on peut observer, instrumentalisés justement par des intérêts, des puissances ou des lobbies financiers et autres en dehors du territoire national. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une interpellation. Il appartient, il est de la responsabilité du gouvernement congolais très rapidement de remettre entre les mains du bureau du procureur les éléments de preuve. De quoi s'agit-il? Ben, il s'agit d'abord, bien entendu, de preuves testimoniales qui vont démontrer l'existence des crimes, les viols, les pillages, les déplacements forcés des populations obligées de quitter leur milieu de vie, parfois enfermées dans des conditions infrahumaines, dans des camps pour déplacer, privés de nourriture, avec des difficultés d'accès à l'eau potable, aux soins de santé, avec une augmentation évidemment du taux de mortalité, des gens qui meurent par milliers tous les jours.
Deuxièmement,
dans ces centres, des enfants arrachés à leur enfance, enrôlés de force et endoctrinés par des groupes armés. Ce sont là véritablement des crimes internationaux, je dirais presque sans précédent. Pour cela, il faudrait se déplacer, bien entendu, pour rencontrer les victimes. Je pense que le gouvernement peut encadrer des ONG de droits de l'homme, leur donner les moyens nécessaires pour que ce travail soit fait rapidement. Mais je pense aussi que dès lors que nous avons des zones de non-droit qui échappent totalement à la juridiction, je veux dire, du gouvernement national actuellement, parce que occupé temporairement par les forces hostiles, y compris le RDF, il est de la responsabilité du bureau du procureur de ne pas se limiter à ce qui pourrait être perçu comme une visite touristique ou protocolaire à Kinshasa, rencontrer des autorités politico-judiciaires, rencontrer des ONG. La CPI a aujourd'hui une responsabilité sur base de sa compétence complémentaire de déployer une équipe à Rutshuru, à Bunagana, à Sake, à Goma, à Bukavu, pour qu'ils aillent eux-mêmes constater ce qui se passe. Il doit se faire accompagner dans son équipe d'experts, experts médico-légaux, parce qu'il faut vérifier la réalité des témoignages des victimes des viols. Il doit se rendre avec notamment des experts militaires en matière non seulement de commandement militaire, mais aussi de discipline, pour démontrer que les RDF étaient toujours sous le commandement et le contrôle du président Patassé et de leur état-major général au Rwanda.
Merci.
Bien que étant déployé sur le territoire de la République démocratique du Congo, que lorsque des crimes ont été commis, que aucune mesure disciplinaire, ni même judiciaire, ni aucune initiative judiciaire n'a été prise d'un point de vue des juridictions militaires censées accompagner les militaires sur des théâtres des opérations aussi complexes où il y a des risques de commission de crimes.
Alors,
les questions doivent s'interroger
On vous revient. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va vous revenir parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi aux autres invités qui sont avec nous dans cette émission. On va vous redonner la parole. Achille Kapanga, vous êtes avocat, analyste indépendant, expert dans le domaine de la sécurité. Quelle lecture vous faites de cette démarche de la RDC, je dirais même de la CPI, qui demande à toute personne qui détient des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de les envoyer sur le site de la CPI.
Madame, moi je pense que, tout en saluant encore une fois les auditeurs, je salue Aimé Kilolo, un confrère à qui je dois beaucoup de gare. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut d'abord comprendre cette juridiction. Elle a quelles caractéristiques? Moi, je pense que cette juridiction a des caractéristiques. La première, c'est d'abord judiciaire, et la seconde, c'est politique. Ça va toujours de pair, la politique et les droits. Or, des fois, la politique a toujours eu beaucoup de poids par rapport aux droits. Et quand la politique est au-dessus du droit, la plupart des fois, plusieurs procédures engagées par ces juridictions sont toujours influencées par certains décideurs de ce monde. Pourquoi je dis ça? Il est arrivé au Congo, je l'ai vu, il a rencontré le chef de l'État, il a rencontré beaucoup de personnalités, c'est bon. Mais c'est là, après combien de temps, et après que combien de Congolais puissent mourir? Si c'est vraiment un procureur général qui a ses mains libres, et qui a vu depuis plus de 20-30 ans les Congolais sont en train de mourir, il fallait vraiment attendre tout cela pour qu'il se déplace au Congo, même si on peut dire que les services sont là. Voilà pourquoi tout en accueillant ce qu'il est venu faire chez nous, mais nous pensons qu'il doit éviter beaucoup plus l'aspect politique, mais aller dans les droits. Et là, j'ai rejoint le confrère Kilolo, quand il dit non, bon, il doit déjà envoyer ses experts sur le terrain. Mais à l'état actuel...
Est-ce qu'il n'essaiera pas, je ne sais pas, est-ce que ça sera possible pour lui d'accéder aux zones, dans ces zones où les M23, plutôt, dans les zones où les M23 font la loi ou contrôle, bon. Les zones sous contrôle du M23.
Pour avoir les données, il ne faut pas seulement qu'ils se déplacent. On a quand même certains centres de santé qui fonctionnent, certains hôpitaux qui fonctionnent. Il y a certaines ONG, les internationales sur le terrain. Je pense que les données sont là. Et ce que nous voulons demander, ce n'est pas trop attendre. S'il y a vraiment certaines données qui sont sur la table, que la MONUSCO pourrait fournir, parce que la MONUSCO a une section des droits de l'homme. Chaque fois, nous suivons le bulletin de la MONUSCO, qui a toujours publié certaines violations des droits de l'homme à travers la RDC. Est-ce que cela ne peut pas se dédonner? Il y a déjà eu combien de cas? Et les cas actuels pour lesquels nous sommes en train de voir des situations dramatiques se proliférer, ne serait-ce pas l'occasion d'agir déjà le plus vite possible pour qu'on puisse peut-être dissuader les gens qui veulent continuer avec ces sales besognes? Et en dehors de ça, même si on peut mener des enquêtes, mais il faut se poser une question, madame. Les décisions de la CPI, comment sont-elles exécutées? C'est bon d'aller dans des procédures et qu'on sort. Mais quand vous avez fini la procédure, à la fin, il y a quoi? On a vu le cas de Thomas Lubanga. Comment ça s'est passé? Où serait Thomas Lubanga aujourd'hui? Est-ce que vraiment la CPI sait bien faire exécuter ses décisions avant d'aller très loin? Beaucoup de cas sont là où on a vu certaines condamnations, même si je disais que c'est toujours la politique qui a toujours eu des poids sur les droits dans ces juridictions. Mais nous pensons que ce qui est important, c'est que il faut d'abord renforcer la façon de faire exécuter les décisions de la CPI. Sinon, les gens penseront qu'on y va, bon, c'est comme une récréation, un peu après, on va revenir pour faire ce que tout le monde et les autres font. Donc, notre gouvernement doit aussi avoir la politique d'encadrer l'exécution des décisions de la CPI. Je me rappelle, on n'est pas encore très loin après la dernière décision, quand l'Ouganda devait dédommager tous les préjudices que l'RDC aurait connus. On a vu ce qui s'est passé à Kisangani. Donc, vous pensez qu'on veut peut-être remettre les gens dans leurs droits, mais on a fait encore l'objet d'une opération où les gens doivent se retrouver et les vraies victimes sont souvent mises à l'écart. Donc, en dehors de dire que la CPI vient faire le travail, on aura peut-être des décisions pour condamner les uns les autres, mais il faut aussi, à notre niveau, que les mécanismes d'exécution soient réels et qu'on sente qu'effectivement, celui-ci en dehors de la décision que la CPI a rendue, en dehors des sanctions que la CPI lui a infligées, mais au moins aujourd'hui, on sait que ça a des effets. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas d'effet direct, d'effet dissuasif sur la situation, ou qui peut amener à changer de situation sur le terrain, madame, on risquera d'être là, dans des procès, mais rien ne pourra changer concrètement.
Mais le fait déjà que la CPI accepte de venir en RDC, échanger avec les autorités congolaises, rencontrer peut-être les ONG de défense de droits de l'homme, c'est déjà quelque chose à saluer.
C'était le droit de la RDC, nous sommes membres, de la CPI. Donc ce n'est pas dire que pour nous, nous devons dorloter ça, non. Nous sommes membres de donc la CPI doit venir chez nous quand il y a des cas pareils. C'est vraiment, ce n'est pas un luxe qu'on a donné à notre pays, ce n'est pas un avantage, non. La CPI doit se déplacer partout là où il y a des cas qui l'interpellent. Donc pour nous, le procureur général ne fait que la routine de son travail, mais nous voulons maintenant que ce travail-là se fasse de manière concrète et qu'on voit réellement les effets du travail que les bénéficiaires en RDC. Comme qu'il l'a dit, que ce ne sont pas un tourisme, non. Qu'on sente que les actions commencent à être menées et que ça dissuade, comme je disais tantôt, madame.
On attend peut-être des condamnations de la CPI. On sait que le Rwanda n'est pas signataire du statut de Rome. Est-ce que cela ne pourrait pas être comme, être un obstacle par rapport à la démarche de la RDC? Il y aura de sanctions, mais après.
Là, c'est quand ça concerne les États. Mais ici, nous sommes dans le cas des individus. Vous savez, quand il s'agit des États, voilà pourquoi nous sommes à Arusha. Parce que là, au moins, nous savons qu'avec les Rwandais, nous sommes membres de cette structure sous-régionale et qu'il y a lieu qu'ensemble, on puisse aller devant cette juridiction compétente-là. Quant à la CPI, là, il y a des individus qu'on peut cibler. Donc, il peut être membre, un État ne peut pas être membre de la CPI, mais quand il y a un individu qui a violé, peu importe sa nationalité, il doit être poursuivi. Donc, nous pensons qu'en dehors des sanctions qu'on a infligées contre Kabaré et consorts, il y a lieu maintenant que les enquêtes profondes soient là pour qu'on puisse les arrêter, les interpeller. C'est ça, madame.
Merci. Desmas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Je rappelle aussi que vous êtes vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Comment vous analysez cet appel du procureur de la Cour pénale internationale, Desmas Kitenge?
Merci beaucoup. Cet appel du procureur comporte quelques aspects. Il y a le premier aspect, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de tous les acteurs de la société, c'est-à-dire commençant d'abord par l'État, la société civile, les victimes, les témoins. Pourquoi sensibiliser? Pourquoi? Puisque la République démocratique du Congo a ratifié les statuts de Rome. Les statuts de Rome qui créent la Cour pénale internationale. Et pour rappel, madame, lorsque je suis toujours sur le point de sensibilisation, nous, après avoir ratifié les statuts de Rome, nous avons aussi adopté, nous avons domestiqué les statuts de Rome, c'est-à-dire nous l'avons intégré dans notre système juridique interne en RDC. Et puis, il faut toujours rappeler que depuis 2000, la Cour pénale internationale est compétente pour les crimes commis à partir du 1er juillet 2002. Et ensuite, il faut dire, donc la compétence matérielle, c'est sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides, et aussi les crimes d'agression, dont la définition est en train d'être adoptée et sur laquelle les États doivent se tomber d'accord. Donc je disais, un, mission de sensibilisation. Deux, mission de coopération. C'est-à-dire, il faut rappeler à l'État qui a signé, puisque l'État qui a signé a l'obligation de coopérer avec les statuts de Rome. Alors, qu'est-ce que signifie la coopération? C'est-à-dire, il faut fournir les informations. L'État aussi, qui a ratifié, doit informer la Cour des crimes qui relèvent de sa compétence, doit donner donc des informations sur ce qui se passe. Donc, ça, c'est mission de coopération. Mission de coopération aussi, c'est pour dire que tout ce qui se passe là, non seulement il faut informer, mais quand la Cour va poser des actes concrets, par exemple le mandat d'arrêt international, il faut que l'État concerné applique. Il faut que la République démocratique du Congo, quand les mandats seront là. Alors, quand je reviens un peu très rapidement sur ce que j'ai dit, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi aussi? Puisque lorsque le procureur arrive, il ne vient pas seulement pour dire que les crimes qui sont commis ne sont commis que par une des parties au conflit. Mais c'est de dire que le conflit se passe, c'est toutes les parties au conflit qui peuvent commettre les crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et lorsqu'il va lancer, puisque la Cour est indépendante et impartiale, la Cour ne peut pas prendre parti pour la République démocratique du Congo d'emblée, sans que les enquêtes se déroulent. Alors, je disais sensibilisation, coopération. Et après, coopération, c'est quoi? Le procureur a annoncé l'ouverture des enquêtes. Le procureur est venu dire qu'il a déjà commencé à enquêter, et ça, il a annoncé depuis quelques années, puisque la République démocratique du Congo est déjà sous enquête de la CPI, rappelons-nous, depuis 2004. C'est en 2004 que le président de l'époque avait déféré la situation de toute la situation du pays en entièreté devant la Cour pénale internationale. C'était à l'époque, en 2004, que le président de l'époque, non, 2003, en 2003 que le président de l'époque avait déféré toute la situation. Et le procureur actuel a dit qu'il est en train d'enquêter depuis 2 ans. Il a répété. Alors, il est venu sensibiliser, demander la coopération et troisièmement, dire que les enquêtes se déroulent. Alors, vous avez abordé l'aspect des enquêtes. Lorsque le procureur enquête, le procureur enquête de plusieurs manières. Il y a déjà une équipe des enquêteurs sur la RDC qui récolte les informations d'une manière confidentielle. Puisque la Cour pénale, contrairement aux juridictions nationales, Maître Kilolo a parlé de la complémentarité, la Cour est complémentaire, c'est-à-dire la Cour ne vient pas remplacer les institutions, mais la Cour va faire un peu plus haut. C'est que donc, il y a deux principes, hein, le manque de volonté ou le manque de capacité. Lorsqu'un État n'a pas la volonté de poursuivre les crimes ou un État n'a pas la capacité de le faire, que la Cour intervient. C'est ça le principe de complémentarité. Mais ce que j'ai relevé ici, le principe de coopération. Alors, vous avez posé la question si le Rwanda qui n'a pas ratifié les statuts de Rome, même si le Rwanda n'a pas ratifié, mais si un ressortissant du Rwanda commet un des crimes relevant de la compétence de la Cour sur le territoire de l'État parti au statut de Rome, la Cour est compétente de poursuivre cette personne et de l'arrêter. Même si son État n'a pas commis ça. Comme les États-Unis d'ailleurs qui n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Mais si un ressortissant américain commet en République démocratique du Congo, puisque la République a ratifié les statuts de Rome, on peut poursuivre ça. Donc les sujets rwandais ne sont pas à l'abri de crimes qu'ils commettraient sur le territoire de la RDC. Donc voilà un peu la mission du procureur. Donc le procureur est venu dire, voilà, j'ai fait mon travail et je commence à récolter. Et le procureur n'est pas, l'équipe des enquêtes du procureur n'est pas forcément obligée d'être sur le terrain, mais de recueillir le témoignage sur les crimes, d'identifier les auteurs des crimes et vraiment d'avoir les éléments de preuve aussi, les éléments de preuve tangibles de ces crimes-là, crimes contre l'humanité, crimes contre... Donc, les procureurs venaient dire à toutes les parties au conflit, attention, j'ai ouvert les enquêtes, je suis en train de travailler là-dessus, mon équipe est déjà... Et il a lancé l'appel toute personne qui a des informations. Que ce soit les victimes, envoient ces informations. Il va les traiter.
Mais Dismas Kitenge, comment la CPI va-t-elle procéder à la collecte et surtout à la vérification des preuves dans ce contexte de guerre?
Oui, la CPI n'est pas sa première expérience. La CPI déjà a travaillé chez nous, dans les contextes de conflits. Rappelez-vous l'Ituri. L'Ituri où il y avait des conflits, et pendant que le conflit se déroulait, la CPI, le bureau du procureur surtout, puisque c'est le procureur qui a le mandat de recueillir les éléments de preuve et d'inculper les personnes, donc recueille. Alors, comment les conflits se passent? Quand les conflits se passent, il y a des victimes, il y a des témoins, il y a des gens qui documentent. Nous, les organisations des droits humains, en général, que ce soit les organisations de la société civile congolaise, que ce soit les organisations internationales, que ce soit aussi les Nations Unies qui sont là. Bien que la Cour ne soit pas une juridiction des Nations Unies, mais la Cour coopère avec les Nations Unies. Et il est bien dit dans les statuts de Rome que le bureau du procureur recueille toutes les informations et toutes les preuves provenant de n'importe quelle source. Mais n'importe quelle source. Alors ici, vous savez, il y a eu beaucoup de documentation de ces crimes. La Cour n'est pas une juridiction, n'est pas une institution politique. La Cour est purement
judiciaire. La Cour fait son travail dans le cadre de l'application du droit qui lui est propre, c'est ce qu'on appelle communément les droits de la CPI. Alors la Cour, à ce moment-là, a tous les moyens de recueillir les éléments de preuve, les informations et les éléments de preuve, à travers des personnes qui sont sur le terrain, à travers les victimes, puisqu'il faut trouver aussi les victimes qui peuvent témoigner, il faut trouver aussi des témoins qui peuvent faire des dépositions, il faut avoir aussi des informations. Et ça, la Cour coopère et travaille d'une manière indépendante, impartiale et d'une manière efficace pour récolter les informations.
Et quelles sont, par exemple,
les procureurs aujourd'hui, c'est une annonce publique. Mais d'une façon confidentielle, le procureur fait déjà ce travail.
Et quels sont, par exemple, quels sont les délais à prévoir avant d'éventuelles inculpations par la Cour pénale internationale? Ça peut prendre combien de temps?
Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai qui est fixé au bureau du procureur. Le procureur peut prendre tous les temps. Mais ce qui est vrai, le procureur est appelé quand même à être dans un délai raisonnable lorsqu'il a déclaré qu'il a ouvert les enquêtes. Donc, la récolte, le recueil des éléments de preuve peut prendre tous les temps nécessaires, mais comme le procureur a déjà annoncé, puisqu'il doit avoir les éléments de preuve, ce qui détermine le travail du procureur, c'est accéder aux éléments de preuve, accéder aux victimes. Lorsqu'il a eu les preuves que les crimes de guerre ont été commis, que les crimes contre l'humanité ont été commis, puisque vous avez parlé de contexte des conflits qui pourraient constituer un obstacle, mais je vous dis, en réalité, ce n'est pas un obstacle. Puisqu'il y a les crimes de guerre seulement qui peuvent se commettre dans les contextes de conflits, mais il y a les crimes contre l'humanité qui peuvent se commettre aussi bien en temps de paix comme en temps de conflits armés. Et ça, ça relève de la compétence de la Cour. Mais il y a aussi les génocides avec tous ces éléments constitutifs des crimes de génocide, les appels à la haine, et la stigmatisation, l'attaque. Donc voilà, le procureur fait ça, mais ça peut lui prendre un peu un temps. Ce qui est vrai, ça prendra quand même un peu de temps, mais je ne saurais pas déterminer. Merci. On ne peut pas déterminer, puisque le procureur a besoin. Mais je vous dis, je vous informe déjà que l'équipe des enquêtes sur la MBC est déjà au travail, du bureau du procureur, est déjà au travail avant que le procureur n'arrive.
Merci.
Ils sont en train d'analyser les informations, de recueillir les éléments de preuve, des réunions. Mais ce qu'il est venu faire, c'est seulement une campagne de sensibilisation.
Merci. Merci, Dismas Kitenge. On vous a suivi. On va vous redonner la parole pour votre deuxième tour de table. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Jackson Kisangani, cette démarche judiciaire de la RDC contre le Rwanda se heurte à plusieurs défis. La lenteur des procédures judiciaires internationales, les intérêts géopolitiques des grandes puissances dans la région et la capacité du Rwanda à mobiliser ses alliés pour contrer ces accusations. Pour être efficace, cette offensive judiciaire doit être accompagnée d'un renforcement des capacités militaires de la RDC, d'une meilleure communication diplomatique et d'un plaidoyer efficace auprès des partenaires stratégiques du pays. On va ouvrir notre standard pour écouter ces nombreux auditrices, auditeurs de Radio Okapi qui nous appellent de partout pour donner leur point de vue, leurs avis par rapport au sujet de ce soir. Direction Lualaba. Colvezi, plutôt dans la province du Lualaba, pour écouter cet auditeur.
Moi, c'est Adonis Oswald de Kamengwa, depuis Colvezi, province du Lualaba. Je salue la méthode de défense RD congolaise qui déploie ses efforts dans toutes les directions de défense pour reconquérir la souveraineté de son territoire. Les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires semblait déjà donner un bon feedback pour la paix. Parce que les diverses sanctions venant du monde entier contre le Rwanda pèsent déjà lourd pour M. Paul Kagame, qui risque d'être en rupture des stocks de sa logistique militaire, équipement de guerre et personnel rebelle. Grâce à la suspension d'aide financière et aux cessations des coopérations militaires avec ses partenaires occidentaux. Cependant, je suis inquiet de savoir que M. Karim Khan, procureur de la CPI, sera limité dans ses enquêtes parce que le Rwanda n'est pas signataire de la charte internationale instituant la CPI. Et par conséquent, tout criminel rwandais est non justiciable par cette cour.
Maître Aimé Kilolo, vous êtes en ligne?
Tout
Tout à fait.
Alors, j'ai posé cette question déjà aux deux autres co-débatteurs, hein, Maître Achille Kapanga et Desmas Kitenge. Mais j'aimerais que vous puissiez répondre quand même à cet auditeur de Kolwezi qui revient aussi sur la même question.
Ben, moi, ce que je voudrais simplement dire ici, et c'est ça qui est le plus important, c'est de rappeler ce qui a été dit par le procureur lui-même hier, lors de ses interventions à la télévision. Il dit que les victimes congolaises ont la même importance que les victimes palestiniennes et ukrainiennes. Cela étant dit, il me semble que on n'a pas besoin d'attendre davantage pour commencer à délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Ce serait un signal de la volonté en termes de politique criminelle menée par le bureau du procureur que, effectivement, l'on veut rendre justice aux millions de victimes congolaises. Parce que le terme le plus adéquat, je ne voudrais pas faire de comparaison entre l'ampleur ou la gravité des crimes, mais pour un peu moins que cela, le procureur n'a pas attendu de nombreux mois pour commencer à solliciter la délivrance d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou, ni de délivrer un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Je pense qu'aujourd'hui, sur la base des éléments de preuve qui existent déjà, naturellement, je parle ici des preuves documentaires qui viennent des différents rapports des Nations Unies, des différents experts. Les éléments sont déjà réunis à suffisance de droits pour délivrer les premiers mandats d'arrêt. Moi, je dirais ceci, si dans un délai que je pourrais considérer de 2 mois ou 3, disons d'ici le 30 juin, aucun mandat d'arrêt n'est délivré contre un responsable de l'état-major général du Rwanda, je pense que le gouvernement congolais devrait réfléchir à en tirer les conséquences et s'engager vers la voie d'un désengagement, en tout cas du traité de Rome. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'on parle tout le temps du Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un sous-traitant. La responsabilité sur les crimes qui se commettent est beaucoup plus vaste. Donc, le procureur devrait aussi aller mener des enquêtes aux États-Unis, en Europe, en Asie, par rapport à tout le phénomène criminel qui se déroule à l'Est. Parce que l'on sait que les crimes et donc la guerre qui se passe à l'Est est essentiellement alimentée par 2 choses. La fourniture d'armes sophistiquées dont on sait qu'elles proviennent bien entendu des grosses multinationales dans l'industrie de l'armement, mais il y a aussi bien entendu le trafic illicite des minerais stratégiques que l'on trouve à l'Est, le coltan, l'or et l'étain. Et donc, on sait que derrière cela, le procureur doit mener des enquêtes aussi sur la responsabilité éventuelle d'un certain nombre d'États au-delà du Rwanda qui hébergent de sociétés écrans, ils font de faux certificats de provenance des minerais pour cacher l'origine illicite, mais aussi pour cacher l'identité de bénéficiaires. Et là, en dehors du Rwanda, on a cité l'Ouganda et plusieurs autres États africains. Mais on parle aussi de d'autres États qui font par exemple le recyclage de ce minerai du sang dans leur pays. On a cité par exemple Dubaï où on trouve l'or qui vient de zones de conflit à l'Est. On parle aussi de la Chine où l'on trouve beaucoup de raffineries qui font le recyclage de tous ces minerais du sang. Mais il faut interroger aussi les responsabilités au niveau de tous ces États. En dehors de ces États, bien entendu, c'est le multinational, on va pas citer les noms ici, c'est pas seulement dans l'industrie de l'armement, mais aussi l'industrie des nouvelles technologies,
l'aérospatial. Bref, il y a beaucoup de multinationales à travers le monde qui financent finalement et donc alimentent la guerre. Mais il faudrait interroger les responsabilités de dirigeants de toutes ces entreprises si la CPI veut véritablement rendre justice.
Merci.
Mais il faut s'interroger aussi sur la responsabilité des banques. Et il y en a beaucoup en Amérique, en Europe et ailleurs. Ils prêtent des milliards de dollars à des multinationales, sachant que c'est pour financer justement ces activités des minerais du sang à l'Est. Donc la complicité est internationale. Quand on parle de la responsabilité devant la CPI, ce n'est pas seulement les auteurs matériels, mais c'est aussi et surtout les auteurs intellectuels au plus haut niveau de la responsabilité qui, sans lesquels, je veux dire, les crimes ne continueraient pas.
Merci, merci.
Et donc, je dirais ici que la responsabilité est grande.
Merci, on vous a suivi.
Et la CPI est aujourd'hui en train de jouer sa crédibilité.
On va aller cette fois-ci à Matadi, dans la province du Congo central, pour écouter cet autre auditeur.
Maître Blaise Condé, à partir de Matadi, au Congo central. La démarche de la République démocratique du Congo est légale et salutaire. Malheureusement, elle n'aboutira pas à la condamnation des personnes qui sont les cerveaux moteurs de ces atrocités au niveau de l'Est. Il y a lieu que le pays qui subventionne la Cour pénale internationale cesse d'être derrière ces groupes armés qui sèment la terreur et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo.
Maître Achille Kapanga, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que Maître Kilolo. Il fallait au-delà du Rwanda, enquêter aussi en Amérique, en Europe, en Asie.
Bon, moi je pense que je dois d'abord répondre à mon ami Dismas Kitenge. Quand il doit ignorer le caractère politique de la CPI, on a vu avec Poutine un mandat d'arrêt qui a été lancé mais qui n'a pas été exécuté. Donc c'est la politique qui a étouffé ce mandat-là. Ce sont des histoires qu'on ne doit pas quand même négliger, non. Donc le caractère politique existe. La preuve, je vais vous la citer, on a lancé un mandat contre Poutine mais étouffé, rien n'a été fait. Moi je pense que ce qu'il faut saluer de tout ça, c'est d'abord les efforts de la diplomatie de notre pays. Comme on sera sur tous les fronts, nous commençons à ressentir les résultats de différents efforts. Je peux saluer Madame la ministre des Affaires étrangères à passant, question de voir au four et au moulin. Mais je dois insister sur un aspect très important, Madame. Europe, Asie, partout, comme on a dit, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que nous avons préparé comme rapport, comme preuve, comme victime? C'est ça dont la CPI a besoin. Nous devons préparer les vraies victimes avec des preuves. Et nous mettons la CPI devant un fait. Que non, à Goma par exemple, voilà autant de personnes qui ont été victimes et les preuves sont là. À Beni, à Butembo, je ne sais pas à Kwamutu, partout. C'est ces choses que nous devons nous concentrer. Et là j'en appelle au ministre d'État, à la justice, avec toute son équipe, de s'y mettre déjà. Parce que la CPI peut envoyer ses enquêteurs sur le terrain. Ils vont récolter certaines données, mais nous devons confronter ces données avec nos propres données. Ce sont nos propres données qui donneront du poids aux enquêtes de la CPI. Et si nous pensons encore que cette opération fera encore l'objet de commencer à créer des fausses ONG pour se taper de l'argent, bon, comme c'est déjà une enquête qui veut commencer, je vais créer mon ONG pour qu'on puisse me financer, je vais créer des victimes. Si on va en sens là, madame, on va échouer. Les vraies victimes existent, les vraies preuves existent. Cessons de politiser ces démarches, non. En tout cas, qu'on y soit cette fois-ci sérieux. Parce que la plupart des fois chez nous au Congo, on échoue dans différentes missions importantes, puisqu'on veut tout politiser, on veut tirer des profits dans n'importe quoi. Moi, mon premier conseil que je donne à l'État, au gouvernement, particulièrement au ministre d'État, à la justice et son vice-ministre, c'est d'abord de voir comment mettre à place une équipe de personnes sérieuses pour récolter les vraies enquêtes, plutôt les vraies données, et identifier les vraies victimes. Et là au moins, si on peut amener ça à la CPI, et que la CPI ne prend pas acte de toutes ces données, de tous ces preuves que nous aurons amenées, là nous dirons que la CPI n'a pas bien fait son travail. Parce que c'est bien de crier, d'être content que le projet général est arrivé, mais lui a besoin de la matière. La matière, madame, ce n'est rien autre que le preuve et les victimes. Ça c'est un. Et de deux, Moi, je pense que, comme l'auditeur a dit, est-ce que nous saurons atteindre notre objectif? Moi, je pense qu'il faut encourager les bonnes choses. Il ne faut pas chaque fois décourager les initiatives qui vont dans le sens de remettre l'État congolais dans ses droits. Et c'est par là que je tente de dire que, depuis que le Congo est là, il y a une dame qui est exceptionnelle, je ne suis pas en train de faire son apologie, mais quand je la vois travailler, je la vois comme elle est en train de faire mieux ces fronts-là, qui est en train d'être accompagnée par ses collègues, justice et consorts. Voilà pourquoi je demande à chaque membre du gouvernement de faire son travail. Si chaque membre du gouvernement travaillait comme cette dame-là, sans penser qu'on est là juste pour chanter peut-être au chef de l'État pour faire ceci, mais on prend ses responsabilités. On fait son travail comme la loi le prévoit, comme le texte le prévoit, je pense que ce pays serait très loin. Malheureusement, beaucoup de nos ministres, beaucoup de nos dirigeants sont dans des distractions et laissent le travail. Pour dire quoi? À l'instant, on n'a pas besoin de distractions, on a besoin que les gens ne puissent d'abord tirer des leçons à ce qui s'était passé avant. Quand je dis ce qui s'était passé avant, là je vois le procès Bemba, je vois le procès peut-être Thomas Lubanga et consorts. Ce sont des procès de la CPI. Dans lesquels nous devons tirer certains éléments importants. Avec Bemba, ça n'a pas réussi pourquoi, ça a échoué pourquoi. Thomas Lubanga, qu'est-ce qui a été fait? Tous ces éléments, on doit maintenant les exploiter pour les étudier et voir comment cette fois-ci nous préparer à conséquence.
Alors, maître Achille Kapanga, au niveau régional africain, la RDC aussi a aussi porté plainte contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples à Arusha, en Tanzanie. Le vice-président de cette Cour a indiqué qu'ils vont se prononcer dans quelques jours sous les exceptions soulevées par le Rwanda. Et parmi ces exceptions, il y a entre autres la compétence de cette Cour à juger cette affaire. La question que l'on se pose, que l'on peut se poser, c'est que les auditeurs aussi se posent, quelles sont les compétences justement de cette cour dans ce type de litige?
Bon, madame, vous savez, les droits, en principe, c'est d'abord la forme avant d'être le fond. C'est d'abord la forme. Moi, je pense que les compétences sont bien définies dans les textes qui instituent cette cour-là. Il y a des compétences matérielles qui est là. Comme on n'a pas assez de temps de les détailler ici, mais je pense que notre République, avant d'aller en procédure, elle a étudié tous ces moyens de forme d'abord. Je dis bien, les droits, c'est d'abord la forme avant d'être le fond. Si la forme n'est pas celle-là, vous ne réussirez pas. Et je dois être convaincu que les confrères Kilolo et consorts étaient là, ils ont pu peaufiner ça. Mais si sur le plan de la forme, on rejetterait, par exemple, notre requête, bon, il y a des références, puisque quand on se prononce sur la forme, c'est que au moment d'aller corriger ce qui n'a pas été bien fait. On peut toujours refaire la procédure et toujours continuer, puisque nous devons mettre de la pression sur le Rwanda pour que le Rwanda comprenne que nous sommes là pour ça. Si on dit qu'on nous a débouté sur la forme et qu'on ne veut plus aller reprendre la procédure, ça là on sera découragé. Mais je pense qu'on doit être debout. Si le plan de la forme ne sera pas réussi, il y a lieu de refaire la procédure pour qu'on y aille jusqu'au bout.
Direction Beni dans la province du Nord Kivu pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle.
Maître Fabrice Ambeli depuis la ville de Beni au Nord Kivu. La démarche judiciaire engagée par la RDC contre le Rwanda est légitime et nécessaire d'ailleurs pour dénoncer les crimes commis à l'est du pays. Toutefois, cette démarche ne doit pas occulter les atrocités perpétrées ailleurs, notamment à Kinshasa et dans d'autres grandes villes où le pouvoir en place est directement impliqué. Les crimes amassés dans les zones de conflit ne doivent pas faire oublier les assassinats ciblés d'opposants, les disparitions forcées et la répression brutale exercée en toute impunité sous le régime de Kinshasa. Le procureur de la Cour pénale internationale ne peut ignorer ce fait s'il est réellement en quête de la vraie justice. Les rapports mapping qui documentent déjà en détail les crimes commis en RDC, c'est un point de départ incontournable. On se demande aussi pourquoi Karim Khan ne s'y réfère-t-il pas. Donc nous, peuple congolais, nous exigeons des enquêtes impartial et non une justice sélective. Si le procureur est en RDC pour enquêter à sens unique, il peut repartir immédiatement à la haie.
Dismas Kitenge, une réaction.
La première réaction, c'est que l'auditeur a demandé que la Cour soit indépendante et soit impartiale.
que ça signifie l'indépendance, c'est que la Cour ne dépend pas des États. Bien qu'elle ait besoin des États dans la coopération, mais la Cour est vraiment indépendante et impartiale. C'est-à-dire, lorsqu'elle enquête sur un pays et sur les crimes qui relèvent de sa compétence, lorsque l'auditeur a parlé, il faut avoir en tête que la Cour enquête sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et il faut vraiment que les éléments, les atteintes ou les violations des droits humains ou du droit international humanitaire qu'on est en train de soulever rentrent dans la compétence de la Cour. Et la compétence à la fois temporelle et à la fois matérielle. J'ai eu à le dire, la Cour, sa compétence temporelle commence à partir du 1er juillet 2002. Et la compétence matérielle, c'est sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pour le moment, les crimes d'agression après. Alors, il faut vraiment que ça entre. Et autre chose que je vais dire à l'auditeur, ne politisons pas la Cour. Ne faisons pas non plus d'amalgame. La Cour ne vient pas remplacer, on a parlé du principe de complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Cour vient faire ce que la justice congolaise ne peut pas faire. Et la justice La Cour ne remplace pas la justice congolaise. La justice congolaise doit poursuivre les crimes, doit être indépendante. Mais la Cour va faire ce que la justice congolaise ne peut pas faire en complément. Mais en premier lieu, c'est la justice congolaise. Et ensuite, je l'ai dit ici, pour les crimes économiques aussi qui ont été soulevés ici, la Cour est compétente pour ces crimes, pour savoir qui a financé. Mais ce que je vais dire aussi, c'est que ne mettons pas trop d'espoir sur la Cour. La Cour va se limiter à quelques cas emblématiques, à quelques cas symboliques. La Cour ne peut pas prendre autant de cas, c'est-à-dire poursuivre, je ne sais pas. Et aussi, ce que je vais dire, que ce soit clair, la Cour poursuit et juge les individus et non les États. Les individus auteurs et responsables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Tandis que la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple, la Cour africaine poursuit les États. Poursuit les États, bien sûr, pour ce que leurs individus ont posé, les individus qui ont été revêtus de l'autorité de l'État. Donc ce sont les États. La Cour va condamner les États. La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. On n'a pas eu le temps trop de parler de la Cour africaine. Mais ce que je veux dire aussi, que les Congolais puissent savoir que ce qui est important après la guerre des procédures, tant qu'un des co-débatteurs appelait la forme, on va passer au fond. Mais au fond, là, il faut que notre dossier soit bien ficelé, qu'on ait les éléments de preuve pour ne pas être déçu comme nous l'avons été à la Cour internationale de justice, où nous avons demandé beaucoup à l'Ouganda, 10 milliards de dollars en guise de dommages et intérêts, mais nous n'avons eu que 325 millions de dollars. Donc vous comprenez, puisqu'il y avait insuffisance de preuves. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, que ce soit pour la Cour pénale internationale, que ce soit pour la Cour de droits de l'homme et de peuple, c'est vraiment qu'on ait des victimes et qu'on ait vraiment qu'on présente des éléments de preuve.
Alors, Dismas Kitenge, je vais vous redouter. Dismas Kitenge, il y a un auditeur qui pose la question de savoir quelles sont les chances, c'est par rapport à la Cour africaine de droits de l'homme, quelles sont les chances des succès de la plainte de la RDC.
Bon, il y a à mon avis deux ou trois éléments. Le premier élément, c'est que sur le plan de la procédure, pour la saisine, sur le plan de la procédure, sur le fonctionnement de la Cour, que nous ayons vraiment respecté ces procédures-là, que nous puissions avoir des éléments qu'on ne puisse pas rater, de rendre la Cour compétente, la Cour africaine, de droit de l'homme, compétente pour statuer sur les cas. Donc la saisine soit vraiment respectée pour que notre cas soit déclaré recevable. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape importante, si le procès est maintenant ouvert, que nous ayons vraiment les éléments de preuve. Deuxièmement, les preuves tangibles et convaincantes. Et ces éléments de preuve, c'est par exemple quoi? Puisque la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple a comme instrument les traités sur lesquels la Cour est basée, c'est ce qu'on appelle la charte africaine de droits de l'homme et de peuple. C'est le premier élément. Et ensuite, les autres protocoles, par exemple la charte. Ça dit qu'on ait des éléments qu'on a tués des gens, qu'on a commis, par exemple, de violations de droit à la vie, de meurtre, qu'il y a eu des violences sexuelles, qu'on ait vraiment des éléments clairs
et qu'on ait des victimes et des éléments de preuve. Ça, c'est les deux conditions. Vraiment, il faut qu'on fasse parler plus les victimes. Parce que même s'il y a des avocats, on a formé une équipe pour la saisine, mais quand le procès va démarrer, qu'on ait des éléments de preuve, qu'on ait des avocats, qu'on ait, pardon, des victimes, je voulais dire, des victimes et des témoins. Qui donnent vraiment de faits précis.
Alors, Dismas Mutenge, on va conclure, nous sommes à la fin de notre émission. On va commencer par vous, votre conclusion hein, par rapport au thème de ce soir.
Ma conclusion par rapport au thème de ce soir, c'est que le front judiciaire déclenché par la RDC, c'est un combat de droit, c'est normal, c'est légitime, mais la RDC doit faire attention. Il faut bien préparer les dossiers. Il faut bien préparer les dossiers, qu'on ait des éléments de preuve, qu'on ait tout ça, et qu'on ne se limite pas seulement au front judiciaire. Comme on a ouvert tout, mais le front judiciaire doit être un front qui mérite une bonne préparation et une implication des victimes et des témoins. Vraiment de faits réels pour ne pas être déçus comme on l'a été à la Cour internationale de justice, où on a engagé beaucoup de moyens, mais sans beaucoup d'éléments de preuve.
Merci.
On a pensé que si on fait une bonne équipe d'avocats, qu'on va gagner. Mais alors qu'il faut vraiment des éléments de preuve, il faut des victimes et des témoins crédibles et fiables.
Merci Dismas Kitenge. Maître Aimé Kilolo, quelles pourraient être les options des sanctions et des réparations que la Cour africaine pourrait imposer au Rwanda? C'est une question de Francis qui nous suit depuis Mbujimayi.
Ben, il est clair que de par la compétence de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple, il peut constater les violations de droits de l'homme commises par le Rwanda, violations notamment du droit de la femme, du droit de la Convention de New York sur le droit des enfants, violation de la Convention internationale qui interdit d'infliger à des êtres humains des traitements inhumains ou dégradants, violation de la Convention portant interdiction de la torture. Donc sur base d'un certain nombre d'éléments de preuve, la Cour a cette possibilité effectivement de constater que il y a violation de droits de l'homme dans le chef de tel ou tel État, en l'occurrence le Rwanda en l'espèce, et il peut alors elle peut prononcer des sanctions. Alors les sanctions seraient essentiellement de sanctions de réparation en termes de dommages-intérêts. Ça peut être de dommages-intérêts collectifs, par exemple ériger des écoles, des hôpitaux qui ont été peut-être touchés, délabrés, déstructurés au niveau des communautés touchées par la guerre à l'Est, mais ça peut aussi être pour certaines victimes emblématiques des réparations individuelles qui peuvent être évaluées en argent pour permettre à des familles entières de se refaire.
Merci, maître.
Ainsi de suite. Mais il faut surtout noter, malheureusement, que la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple n'a pas un organe qui permette d'imposer l'exécution de ces décisions qui dépendent largement de la bonne volonté des États. Et donc, il y a toujours cette crainte que ça puisse rester lettre morte.
Merci, mais maître Kilolo. Je crois qu'on va organiser notre émission prochainement sur cette question très intéressante hein, pour nos auditeurs. Maître Achille Kapanga, votre conclusion. Hein.
À quelques mots, je dirais qu'il faut d'abord que la RDC ne se fasse pas des illusions comme quoi c'est la CEP qui va terminer la guerre. Non. La guerre, elle est là. La CEP ne veut pas terminer la guerre. Nous devons continuer à travailler et à nous battre. J'avais une recommandation en disant que le Congo doit jouer avec ses deux pieds. Le pied gauche, c'est la diplomatie, comme elle est agissante, on voit les résultats aujourd'hui. Et le pied droit, c'est se préparer, parce que nous sommes un État qui est convoité, on doit toujours être prêt à combattre. Et de deux, nous devons être sérieux dans les données. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'on commence à créer des fausses ONG pour commencer à créer des faux témoins, des fausses victimes. Non.
Vous l'avez
si
déjà
les gens le font encore, ce sera très grave. Et pour terminer, madame, je pense que nous devons aussi chercher à comprendre les anciennes condamnations de l'Ouganda. Tout ce que l'Ouganda avait donné, est-ce que la RDC en a bien assez le suivi? Est-ce que les routes qu'on devait faire, tout, ça a été bien fait? Je crois que les leçons par rapport à ça, ça nous permettra de faire mieux prochainement, madame.
Merci, maître Achille Kiapanga, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Freddy Bikumbi et Bersin Kassiama qui ont réalisé cette émission. Mimi Kindete à la mise en onde, derrière les caméras, Hervé Voka et Clément Chimanga, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.